Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler des technologies émergentes, toutes ces innovations qui changent nos façons de vivre depuis le début des années 2000. Et si nous étions en train de perdre la maîtrise de ces changements qui s'accélèrent, comment reprendre le contrôle? Voilà l'un des enjeux de société auxquels souhaite répondre le projet TESACO, porté par l'Académie des sciences morales et politiques et Daniel Handler en particulier depuis 2018. Avec son équipe, il propose une approche globale de toutes ces problématiques en empruntant la voie de la sagesse collective. Bonjour Daniel Handler.
Bonjour.
Alors, votre projet s'inscrit en fait dans une longue tradition, celle des enquêtes de l'Académie des sciences morales et politiques. En 1840, vos prédécesseurs avaient étudié les conséquences de l'industrialisation sur les conditions de travail et de vie des ouvriers. Cette enquête sociale a fait date. Autre temps, autre révolution. Aujourd'hui, le sujet qui vous occupe est celui des technologies qui changent notre façon de vivre. Ce qui vous frappe, en fait, en vous lisant, on s'en rend compte, c'est l'accélération du rythme de ces innovations. Comment parvenez-vous à travailler sur une matière qui évolue en permanence ?
L'évolution est effectivement le sujet central. Cette accélération, désaccélération, il y en a eu de nombreuses dans l'histoire quand on pense justement à cette première enquête dont vous m'informez, je ne la connaissais pas. Là aussi, les choses sont allées très très vite. L'extension des réseaux ferrés, l'industrialisation, l'électrification, tout ça s'est fait relativement rapidement. Là, ce qu'il y a de peut-être de nouveau, encore ça peut se discuter, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'effectivement en 20 ans, à peu près tout a changé en réalité, aussi bien dans nos vies quotidiennes, le smartphone, etc., que dans notre vie au travail, que l'organisation du travail, que l'organisation économique, que l'organisation des transports maritimes et des transports aériens, des secours, de la santé, et j'en passe. Tout ça, en 20 ans, c'est probablement sans précédent. Probablement la raison fondamentale en est que l'intuition, en quelque sorte, qu'ont eu les logiciens au milieu du siècle précédent, à savoir que tout pouvait d'une certaine façon se numériser, tout pouvait devenir information, c'est ça qui permet cette pénétration universelle et rapide des technologies numériques dans toute la société, et qui rencontre alors d'autres technologies, notamment en matière de biotechnologie, par exemple. Mais la biotechnologie est elle-même une technologie largement numérisée. Les informations, ce qu'on a appelé pendant très longtemps les informations, qui sont les data, qui deviennent les big data. Les big data, c'est une façon de récolter des informations en très très grand nombre, comme ça n'était pas possible avant, grâce à Internet notamment, grâce aux télécommunications. Et donc tout ça converge, si vous voulez, avec un effet d'amplification mutuelle. Donc je dirais que cette accélération est due premièrement à l'idée géniale que tout peut se numériser. Enfin, quand je dis tout, il y a des nuances importantes à apporter, mais pour le dire comme ça, à gros traits, tout se numérise, et donc le numérique pénètre tous les domaines, d'une part, et d'autre part, qu'il y a cette convergence des technologies de la biologique, cognitive, d'information, de communication, et aussi sur le plan matériel, parce qu'après tout ça fonctionne sur la base d'appareils concrets. Ici, donc, les nanotechnologies jouent aussi un rôle tout à fait décisif.
Et c'est ce vaste domaine, hein, on le comprend, qui vous intéresse. Donc, les technologies émergentes, ce sont pour Tezako les biotechnologies, les nanotechnologies, les technologies issues des neurosciences cognitives et les technologies de l'information et de la communication. Pour bien réfléchir aux enjeux qu'elles peuvent soulever, il faut d'abord les cartographier. Comment vous voyez leur interaction les unes par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a une forme d'organisation, de hiérarchie,
je crois qu'on est plutôt sur le modèle de l'explosion, le modèle des mille fleurs de Mao Tse-tung, oublié depuis longtemps, tant mieux. Je crois qu'en réalité, ces différents champs d'innovation se sont développés quand même de manière relativement indépendante. Mais il y a malgré tout donc cette convergente, c'est à la fois cette convergence, c'est-à-dire elles s'appuient les unes les autres, et puis il y a aussi le fait qu'elles se diffusent partout. Et donc tout ça crée un champ difficile justement à comprendre et à maîtriser. Et l'un des objectifs de Tezako, c'est... Alors, pourquoi maîtriser? Pourquoi maîtriser? Disons-le franchement. Nous sommes tous débordés. Nous sommes tous visiblement
nous
débordés.
Nous avons perdu la maîtrise,
nous
selon
avons
vous.
Tout à fait perdu la maîtrise. Nous le voyons bien dans nos vies quotidiennes. Nous sentons que nous sommes envahis. Alors, nous luttons. Certains sont plus adroits que d'autres pour lutter contre l'envahissement. Mais on est tous... envahi, trop d'informations, trop de canaux de communication, trop d'appareils qui se branchent les uns les autres, qui changent toutes les 3 ans, etc. Ça, c'est dans nos vies quotidiennes, mais on voit bien que les pouvoirs publics, les administrations, les industries, les mafias aussi, sont constamment en train de modifier leur façon de faire, leur façon de vivre, leur façon d'attaquer, leur façon de se défendre. Et tout ça nous échappe dans une grande mesure. Alors évidemment, ce n'est pas tout à coup Tezako qui s'est réveillé un matin en disant « Ouh là là, tout ça ne va pas, il va falloir se défendre, on va reprendre la maîtrise ». Tout le monde cherche à reprendre la maîtrise et ce que Tezako veut faire, c'est participer en quelque sorte aux côtés de toutes sortes d'autres organismes, organisations, sources d'informations et de pensées et d'actions à ce mouvement donc de prise de conscience. Donc maîtriser, c'est éviter que, premièrement, on a perdu le contrôle sur un certain nombre de choses, on voudrait revenir en arrière, on préférait, là j'ai lu l'autre jour une statistique, un enfant à l'entrée en sixième passe 6 heures par jour devant ses écrans et 10 minutes à parler avec ses parents. Et probablement ses parents passent la plupart de leur temps avec leur enfant en train de regarder leur smartphone. Donc ça, on se dit comme ça, sans être fin pédagogue, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure des choses, qu'on a perdu la maîtrise. Donc voilà, on a perdu la maîtrise sur un certain nombre d'emplois. On voit aussi que le totalitarisme, par exemple, dans certains pays, se mue en ultra-totalitarisme. La société de surveillance devient une société d'ultra-surveillance. Même nos démocraties elles-mêmes sont largement menacées par des techniques de surveillance. Donc, on voudrait maîtriser, reprendre le contrôle, un contrôle qu'on a perdu parce que tout ça s'est passé beaucoup trop vite, effectivement, en 20 ans, comme vous l'avez dit. Toutes les inventions sur lesquelles, dont notre quotidien est fait, en quelque sorte, ont moins de 20 ans. C'est tout à fait étonnant, quand même. Au point qu'il y a donc une distinction entre les gens de ma génération, les gens de votre génération, les gens des générations de vos enfants éventuellement. Tout ça, c'est fait à une allure absolument extraordinaire. Mais il ne s'agit pas simplement de reprendre le contrôle sur les usages actuels, les usages pervers ou les effets pervers des technologies, dont il ne faut jamais oublier qu'elles nous apportent aussi des bénéfices extraordinaires. Ce n'est pas simplement l'empire du mal.
Ce n'est pas anti-progrès.
Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est important. Je suis content que vous me donniez l'occasion de le dire. On va peut-être y revenir dans une seconde. Donc, non seulement reprendre le contrôle et de manière à revenir en arrière, un peu comme, si vous voulez, je compare à la voiture. Bon, moi, quand j'étais très jeune, j'ai commencé à conduire. Il y avait en France, pour une circulation moins de 10 fois moindre de celle qu'elle est aujourd'hui, peut-être 20 ou 30 fois moindre, 18 000 morts par an. 18 000 morts par an. C'était une hécatombe, je veux dire. On ne connaissait pas, à la fin de l'été, la question, c'était avant Internet, la question était de savoir quelle famille a été... meurtri par un accident gravissime de la route. C'était comme la guerre, quoi. Bon, maintenant, il y a à peu près 3000 morts par an pour une circulation 10 ou 20 fois supérieure. On a un peu repris le contrôle de l'automobile, même si on n'a pas réglé toutes les nuisances de l'automobile. Bon, de la même manière, on voudrait reprendre un peu le contrôle. Là, on l'a perdu. Mais il ne faut pas oublier que le progrès ne s'arrête pas maintenant. Il va continuer. Les technologies vont se développer dans toutes sortes de directions, avec notamment l'arrivée de la 5G, mais les progrès de l'ingénierie génétique, un peu partout, les progrès de l'intelligence artificielle, de la robotique, ça n'arrête pas. Au contraire, on est à la veille. Et alors, on voudrait que cette évolution aille plutôt dans le bon sens que dans le mauvais sens. Le moins possible dans le mauvais sens et le plus possible dans le bon sens.
Et du coup, quelle est l'originalité de l'approche spécifique de Tezaco ?
Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que ce que nous avons... D'abord, nous sommes un petit groupe. C'est une étude parmi bien d'autres. Je crois que ce que nous avons d'original, c'est peut-être deux choses. D'abord, de vouloir justement considérer l'ensemble de ces révolutions technologiques, d'abord parce qu'on a vu qu'elles s'appuyaient les unes sur les autres, ça c'est parfaitement naturel, mais aussi parce que je crois qu'il y a pas mal de philosophes parmi nous, nous croyons voir des schémas qui se reproduisent dans les différents secteurs. Quand on s'interroge sur, par exemple, l'intelligence artificielle, éthique de l'intelligence artificielle, ah oui, il y a des problèmes d'éthique. Qu'est-ce qu'on entend par éthique dans l'intelligence artificielle ? Mais ensuite, on se tourne vers les biotechnologies, où il y a un énorme débat sur ce qui est éthique ou pas éthique en matière d'ingénierie génétique, d'édition du génome, comme on dit parfois, ou de forçage génétique dans l'agriculture ou dans l'environnement. Et on retrouve ces problèmes d'éthique appliquée en quelque sorte. Et on retrouve aussi des questions, si vous voulez, qui sur le plan politique sont les suivantes. Qui a la maîtrise? Qui décide? Pourquoi sommes-nous placés devant ces choix? Est-ce qu'on n'aurait pas dû nous consulter d'abord? Qui? Nous les citoyens, nous les pouvoirs publics. Donc, les questions de débat, de contrôle, de débat démocratique, d'éthique, de contrôle démocratique sont récurrentes, si vous voulez, dans ces différents domaines. Et donc, c'est peut-être ça, c'est la capacité de voir des choses qui sont, en quelque sorte, qu'on retrouve dans les différents secteurs technologiques. Et puis l'autre chose, c'est que nous sommes prêts à regarder les choses de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire aussi bien de prendre le point de vue, si vous voulez, du philosophe des sciences, du sociologue, du politiste, du juriste. Nous avons des juristes dans notre équipe qui sont un apport absolument fondamental. Et de regarder les choses, disons, à tous les niveaux, depuis le niveau le plus général du développement de la science, des rapports entre science et technologie. Est-ce que les technologies sont neutres ? On dit parfois que les technologies sont axiologiquement neutres. Après tout, un revolver, ça peut servir à vous défendre contre quelqu'un, ou bien ça sert à assassiner votre voisine si vous ne l'aimez plus. Donc ça peut aller dans tous les sens, mais en réalité, la technologie n'est pas si neutre que ça, ne serait-ce que parce qu'au moment de développer la technologie, il y a un certain nombre de questions de priorité. Donc ces questions-là, on les regarde tout à fait en amont, et puis on va jusque dans les choses très concrètes. Par exemple, on a tout un chantier animé par notre collègue juriste Célia Zuninski qui parle de la capture de l'attention et comment retrouver en quelque sorte cette maîtrise de l'attention qui nous est volée en quelque sorte, entre guillemets, par les plateformes qui utilisent toutes sortes de procédés absolument malhonnêtes pour capter notre attention. Voilà, donc on est là vraiment sur le terrain à se demander qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va introduire des lois, des règlements, des bonnes pratiques ? Est-ce qu'on va essayer d'éduquer les enfants et les adultes à retrouver la maîtrise de leur attention ? Donc, si vous voulez, notre originalité, notre tentative, c'est d'aller vraiment à tous ces niveaux-là, depuis les questions les plus théoriques jusqu'aux questions, disons, les plus pratiques.
Et vous dites qu'un modèle qui vous inspire dans un tout autre domaine, c'est celui du GIEC.
Oui, c'est vrai, parce que ce qui est tout à fait remarquable dans le GIEC, c'est qu'on est de nouveau devant, premièrement, une situation qui est potentiellement dramatique. Ça, je crois que personne ne nie que le changement climatique est un problème absolument crucial. C'est le problème numéro un, probablement. Deuxièmement, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Troisièmement, c'est un domaine dans lequel les opinions ne sont pas absolument unanimes. Et où pourtant, le GIEC parvient à rendre compte de manière équilibrée et de manière directement utilisable par les décideurs publics et privés de ce qu'il faut faire en matière de climat, de ce qui nous menace et ce qu'il faut faire en matière de climat. Alors évidemment, les connaissances sont incomplètes, c'est certain. Les les connaissances sont aussi incertaines, entachées d'un degré de probabilité, mais néanmoins, le GIEC parvient à donner une image de la situation qui permet aux décideurs de prendre des mesures. Sans les travaux du GIEC, je ne pense pas que, si insuffisants soient les efforts internationaux et nationaux et des entreprises actuellement, sans le GIEC, on n'aurait pas en quelque sorte cette direction générale. Et ce qui est intéressant à propos du GIEC, c'est qu'il y a une entreprise collective. Il n'y a pas une personne au GIEC, il n'y a même pas trois personnes au GIEC qui ont fait en quelque sorte la synthèse de tous les travaux possibles et qui se sont mis à rédiger un bonsoir, un rapport. Ce sont des milliers de spécialistes qui, finalement, parviennent à réunir de manière convergente leur expérience, leur compréhension du domaine et d'élaborer au moins une intelligence collective, c'est-à-dire une compréhension du phénomène et, dans une certaine mesure, le début d'une sagesse, développer le début d'une sagesse collective. C'est-à-dire, la sagesse, c'est la prise en compte de l'ensemble des intérêts des parties prenantes, des différents pays, des différentes couches de population, des différentes technologies, etc., de manière à, disons, proposer un certain nombre de lignes de conduite. Évidemment, ce sera ensuite aux politiques et aux citoyens de décider ce qu'ils vont faire.
Cette voie de la sagesse collective, TESACO, y tient énormément, puisqu'elle figure même dans son nom, le ZACO, c'est pour sagesse collective. Pourquoi cela vous semble-t-il aussi important, et qu'est-ce que vous entendez par collectif ?
Alors, il y a collectif, c'est il y a un peu deux idées. D'abord, il y a l'idée, avant la sagesse collective, il y a l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, c'est une idée assez banale. On entend parler absolument tout le temps. Ça fait partie des topos de tous les coachs d'entreprise, etc. En gros, l'intelligence collective, c'est la capacité d'une communauté, quelle qu'elle soit. Ça peut être 3 personnes, ça peut être 3000 personnes. De faire mieux au niveau de la compréhension et de l'action qu'ils pourraient faire individuellement. Donc ça, c'est une vieille affaire. On discute ensemble. Une personne ne peut pas tout comprendre. Une personne peut avoir des tâches aveugles. Une personne peut avoir des limitations d'intelligence, de connaissances, etc. Donc on se met ensemble. Mais ce qu'il y a d'un petit peu nouveau, et ça, c'est en partie lié justement au numérique, Internet et technologies de la communication, on arrive maintenant à élaborer des systèmes d'information, de délibération et de décision collective qui sont nouveaux, qui sont, dans certains cas, dans les cas les plus favorables, extraordinairement efficaces. Alors évidemment, il y a un système d'intelligence collective très ancien qui est celui du vote, n'est-ce pas ? Quand vous votez, mais bon, on connaît aussi les limites de ce système. Il ne peut répondre qu'à un certain nombre de questions extrêmement simples, qui va être le président de la République ou qui va être notre député, alors que des dispositifs d'intelligence collective plus fins, fondés notamment sur la capacité de faire interagir un certain nombre de connaissances sans nécessairement avoir une véritable délibération. On met ensemble, on agrège ensemble les informations que vous avez sur le climat, que moi j'ai sur la circulation à Paris et que les gens autour de nous ont sur la circulation à Paris. On met tout ça ensemble, on l'agrège automatiquement et on obtient parfois un résultat qui est intéressant. Donc là, on a fait un progrès collectif. Donc il y a une intelligence collective qui nous a fait mieux comprendre un problème que ce qu'on aurait pu faire par les moyens habituels, soit de la réflexion solitaire, soit de la délibération habituelle entre sages, 5 personnes autour d'une table. Alors on passe à la sagesse collective quand on essaye d'appliquer le même genre de réflexion collective à des questions finalement éthiques, à savoir qu'est-ce que nous voulons de ces technologies, comment allons-nous équilibrer les besoins des uns et des autres, les risques encourus par les uns et les autres, en tenant compte à la fois du long terme et de la pluralité des points de vue. Et dans le cas des technologies convergentes, c'est totalement non évident. Vous prenez, Internet, la vidéo à la demande. Ben, y a beaucoup de gens qui adorent avoir la vidéo à la demande. Oui, d'accord, mais bon, ça a une empreinte carbone, ça lèse un certain nombre de gens, ça peut-être, ça ne permet, ça lèse d'autres formes de culture. Donc nous devons nous demander quelle est la place de la vidéo à la demande dans un équilibre général. Alors évidemment, là j'ai pris un exemple qui est un petit peu trop petit, parce qu'on ne va pas probablement avoir une décision à prendre sur la vidéo à la demande, mais de manière plus générale, l'extension que nous voulons donner au périmètre de l'information, de la communication, des biotechnologies, etc., comment équilibrer les besoins des différentes communautés concernées, où se situe la décision, quand est-il urgent de sursoir à une décision, quand est-il urgent d'y aller. Voilà des questions qui relèvent plutôt de la sagesse collective parce qu'elles impliquent les valeurs et les valeurs des différentes personnes concernées. Ce n'est pas simplement les valeurs de M. Bezos, ni nécessairement vos valeurs ou les miennes, c'est la valeur de l'ensemble des personnes et des collectivités concernées. Et c'est pour ça qu'on passe de l'intelligence à la sagesse collective. Ce mot sagesse, d'ailleurs, a suscité des réactions très positives parmi mes confrères. Ils ont dit « Ah oui, ça, on aime bien ce terme, ça nous parle. » Alors peut-être ça parlait un peu différemment à mes différents confrères.
Selon philosophes, juristes ou scientifiques.
Voilà, oui.
Avaient des échos peut-être différents.
Voilà, exactement, exactement.
Et alors vous dites que certaines problématiques se retrouvent d'une technologie à l'autre. Peut-être d'un point de vue éthique, quels sont les enjeux qui reviennent? Est-ce que c'est par exemple celui du fantasme d'une humanité augmentée?
Alors, il y a cette idée de l'humanité augmentée qui est un thème relativement particulier. Mais enfin, c'est vrai que, par exemple, on le retrouve aussi bien du côté biotechnologique, puisque l'être humain pourrait, dans sa constitution biologique, être augmenté, « enhanced », on dit en anglais. Mais il pourrait être aussi augmenté par le biais de l'intelligence artificielle. Et il y a ce rêve, effectivement, d'un être humain qui serait mieux que ce qu'il est maintenant ou autre de ce qu'il est maintenant. Personnellement, je suis pas... je suis intéressé à titre philosophique et anthropologique par ce thème. Mais comme je n'y crois pas beaucoup en manière de réalisation pratique, je crois que, sur le plan évidemment des interventions médicamenteuses ou chirurgicales ou neurochirurgicales, on peut effectivement imaginer qu'un certain nombre de choses qui sont dans la droite ligne de ce qui se fait déjà, enfin quand on se dope, on est déjà dans l'augmentation de l'être humain. Il y a toujours l'idée qu'on peut augmenter pour réparer, mais il ne faut pas augmenter pour transformer d'une certaine façon l'homme en un autre homme. Mais je dirais que sur le plan pratique, ce n'est pas, disons, un souci immédiat, en tout cas pour mon groupe. Nous sommes beaucoup plus attachés à des questions telles que l'autonomie, par exemple. L'autonomie, l'identité, le droit à la vie privée, les données génétiques, par exemple, la question des données génétiques, le fait qu'il y a ce qu'on appelle des tests ADN récréatifs qui vous permettent éventuellement d'envoyer un petit peu de salive à l'autre bout, de l'autre côté de l'Atlantique et d'apprendre que vous êtes 23% bourguignonne, un petit peu italienne sur les bords, éventuellement un petit peu tzigane, je ne sais pas, avec des ancêtres islandais. Tout cela semble assez amusant, mais pose évidemment la question du fait que votre ADN est maintenant quelque part dans une entreprise privée américaine. Vous n'avez aucun contrôle sur l'utilisation de ces données. Ces données peuvent donner lieu à ce qu'on appelle des découvertes fortuites, c'est-à-dire que tout à coup, on s'aperçoit que vous et l'ADN de je ne sais qui, dont vous ne connaissez même pas l'existence, mais il se trouve que c'est votre demi-frère, c'est ennuyeux. Vous, ça vous inquiète peut-être pas de découvrir que vous avez un demi-frère, mais peut-être le demi-frère, lui, ça l'inquiète beaucoup. Tout à coup, votre envie de savoir si vous êtes un petit peu bourguignonne ou un petit peu islandaise va avoir un effet peut-être massif, en quelque sorte, sur la vie familiale, sur l'image de soi de votre demi-frère. Évidemment, je précise pour nos auditeurs que cet exemple est entièrement fantaisiste, je viens de l'inventer. Donc nous avons des préoccupations qui sont des préoccupations éthiques qu'on retrouve aussi bien au niveau, disons, de ce que j'appelle la numérisphère, l'ensemble du numérique, qu'au niveau des biotechnologies et de la génétique. Et donc là, on a des questions qui sont à la fois éthique, juridique et technologique extraordinairement complexe et qui nous occupe, si vous voulez, et qui nous occupe et nous passionne et nous préoccupe davantage que peut-être la problématique de l'homme augmenté, qui par ailleurs est également intéressante.
Et est-il possible de reprendre la main sur ces changements qui, pour certains, paraissent inéluctables ?
Je pense que la réponse, c'est que, bon, il n'y a pas probablement de retour en arrière massif, peut-être sur certains points très limités. En revanche, je pense qu'il y a une possibilité, si j'y croyais pas, je ne me serais pas embarqué dans tes accos, je ne m'intéresserais pas à ces questions, une réorientation et une canalisation. C'est-à-dire que, et c'est ça l'idée de maîtrise, la maîtrise, ça n'est pas dire absolument non, tout à coup on va dire non à Internet. Effectivement, Internet, c'est merveilleux, mais ça nous empoisonne la vie, et on pourrait dire, bah, au fond, une solution simple, c'est on renonce à Internet. Je ne crois pas une seconde que nous allons à renoncer à Internet, premièrement parce que Internet est une chose extraordinaire, modifier très fondamentalement le rapport à la connaissance, peut-être avec des côtés négatifs, peut-être aussi avec des côtés positifs, enfin certainement avec des côtés positifs, et de toute façon, c'est, à mon avis, c'est du temps perdu de se demander si on va revenir sur Internet ou des innovations aussi massives que celles-là. En revanche, je pense que c'est tout à fait possible de canaliser d'abord ce qui est mis à la disposition du public et aussi de canaliser de favoriser, de permettre aux individus de reprendre une maîtrise personnelle sur leur utilisation de ces technologies. C'est une idée assez banale, mais je crois qu'elle est devenue plus difficile et plus intéressante du fait que ces technologies sont magiques et complexes. Je compare à la voiture, une histoire de vitesse essentiellement, et de faire attention à ne pas rentrer dans les gens. Je compare à la télévision. Quand j'étais jeune, le grand problème, c'était que les enfants, ils passaient, la télévision, c'était merveilleux, ça ouvrait une fenêtre sur le monde, ça permettait d'assister à des débats intéressants, des reportages passionnants, on savait un peu ce qui se passait à l'autre bout du monde, on prenait conscience notamment d'abominations, de catastrophes qui se passaient très loin, on avait les photos, tout ça, c'était extraordinaire. Donc, ça a été une révolution, l'arrivée de la télévision. Et puis, simplement, les gens ont commencé à passer 6 heures par jour, 8 heures par jour à la télévision. Alors, c'est assez simple. On doit, en gros, inciter les gens à ne pas regarder trop la télévision. C'est pas très compliqué. Les gens comprennent que, bon, le temps qu'ils passent devant la télévision, ils ne passent pas à jouer avec leurs enfants ou aller à s'occuper de choses plus intéressantes, éventuellement. Et on peut, éventuellement, influer sur les contenus de la télévision et éventuellement limiter le nombre d'heures ou limiter le nombre de chaînes. Tout ça, c'est possible, mais c'est assez simple. Tandis que les nouvelles technologies d'aujourd'hui, Internet, le smartphone, Instagram, les réseaux sociaux numériques, les biotechnologies, c'est difficile à comprendre. C'est pas évident comment on va agir, sur quel bouton on va appuyer, en quelque sorte, pour que cette espèce de véhicule qui nous emporte vers des horizons inconnus, inquiétants, magiques, pour que le véhicule aille plutôt dans la bonne direction que dans la mauvaise direction. Ça a cessé d'être un problème simple.
Et qui peut agir ? Est-ce que c'est au niveau du politique, de la société, des individus ou des entreprises ?
Je pense que les individus laissés à eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose, à mon avis, de massif. Sur des choses beaucoup plus simples, on voit que les initiatives individuelles, la reprise en main individuelle est quelque chose, disons, d'assez fragile. En revanche, je pense que les pouvoirs publics et la société civile, les associations, etc., peuvent agir de manière tout à fait déterminée. D'ailleurs, on en voit des exemples. Je vous en donne un, puisque nous participons à deux initiatives visant essentiellement à reprendre le contrôle d'Internet et des plateformes. Donc il y a un colloque qui va avoir lieu en trois fois, c'est en visioconférence à partir du 2 juin, je crois, qui s'appelle « Le web après les plateformes ». Et l'idée, c'est qu'actuellement, nos informations sont prisonnières des plateformes. Quand nos informations sont chez Amazon, Amazon les possède, les contrôle, et elles ne peuvent pas sortir d'Amazon. Alors que ce sont nos informations, donc on aimerait pouvoir avoir la main sur nos informations et les mettre éventuellement à disposition d'un autre système, peut-être pas une plateforme, peut-être une agence publique ou quelque chose que nous aurions fabriqué nous-mêmes. Donc cette idée de la reprise, de reprendre aux plateformes le contrôle d'Internet pour revenir au rêve initial d'Internet tel qu'il avait été imaginé par Tim Berners-Lee, d'ailleurs qui participe à ce mouvement de reprise en main d'Internet. Voilà quelque chose qui est animé par des associations qui se regroupent éventuellement, comme pour l'événement qui va commencer le 2 juin, et qui semble devoir porter ses fruits, je pense. Un autre exemple avec une sorte de think tank qui s'appelle le plus important. Nous organisons, à cause de la pandémie, ça a été un peu retardé, mais nous étions sur le point d'organiser à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, veux-je dire, une demi-journée ou une journée entière de sensibilisation sur un retour du web à ses valeurs démocratiques initiales, le web du temps au service des valeurs des Lumières, par exemple. Ça, ce sont des initiatives auxquelles nous participons à notre modeste échelle, en quelque sorte, avec d'autres petites associations. Mais je pense que vous multipliez ça par 1000, par 10 000, par 100 000 dans le monde entier, avec les effets quand même de synergie grâce à Internet, qui fait que ces différents groupes se connaissent, se reconnaissent, s'allient, etc. Vous avez là un mouvement qui est un mouvement d'opinion publique, en quelque sorte, de société civile, qui peut être, très, à mon avis, très efficace, et qui peut peser sur les pouvoirs publics qui réfléchissent beaucoup, qui sont un peu sortis de l'idéologie du laisser-faire, et qui sont, elles aussi, intéressées à l'idée de reprendre la main de manière à organiser une société plus harmonieuse. Elle en a bien besoin et plus productive.
Cela peut donner des idées pour les programmes de la présidentielle. Alors, de façon très concrète, que fait TESACO? Comment travaillez-vous? Et qu'est-ce que vous proposez au public qui veut vous suivre?
Alors, TESACO a été affecté par la pandémie, évidemment. D'abord parce que ça nous a empêchés de nous réunir en présentiel au sein de l'équipe. Et ça, on peut, à cette occasion, on a fait une sorte d'étude un peu intuitive, un peu empirique sur les avantages et les inconvénients de tout faire en visio. Beaucoup d'avantages parce que tout à coup, on a pu travailler ensemble alors qu'on était confinés quatre coins de la France et travailler ensemble. Mais ça a limité aussi parce qu'en visio, il y a un certain type d'interaction, justement, d'ébauche d'intelligence collective qui ne peuvent pas se faire, en fait. Donc on a été un petit peu gêné pour ça. Alors ça ne nous a pas empêché d'avancer. On a été gêné aussi parce qu'une partie de notre travail, tel que nous le concevions, c'était d'organiser des ateliers, des journées d'études. Et là aussi, en présentiel, on a pu lancer donc notre colloque de lancement, d'où est issu donc le premier numéro de nos cahiers, les cahiers de TESACO. Nous sommes assez contents à la fois de ce colloque et de ce cahier. Je crois que c'est déjà une étape et le public peut prendre connaissance des cahiers, soit en nous demandant de leur envoyer l'exemplaire imprimé, soit en regardant sur notre site où on trouve sur notre site l'ensemble des informations et des documents et des textes que nous produisons. Par l'intermédiaire, donc, il y a les écrits, il y a les ateliers. Alors ça va reprendre, puisque nous espérons être sortis de la pandémie. Nous avons encore une année et demie pour travailler. Peut-être ce sera prolongé sous d'autres formes au-delà de cette année et demie. Nous allons travailler jusqu'à la fin 2022. Nous allons produire un certain nombre de cahiers qui sont déjà prévus, au moins 6 numéros des cahiers de TESACO, qu'on peut encore une fois obtenir soit sous forme imprimée, soit sous un PDF sur notre site. Et nous allons d'autre part organiser un certain nombre de colloques et puis clore l'opération, en tout cas provisoirement, par la publication d'un livre collectif.
Eh bien, un grand merci Daniel Handler de nous avoir présenter ce projet Tezaco. Vous pouvez, amis auditeurs, retrouver les cahiers de Tezaco dans son numéro 1. Il y a des articles de spécialistes très divers avec des approches parfois originales des problématiques que nous avons évoquées ensemble. Et puis vous avez un site internet, donc Tezaco, s'écrit TESACO. Un grand merci,
merci
et à
beaucoup.
Bientôt.
Merci beaucoup.